Lecture du CLS, le Cercle de Lecture Sociale, dont les aspirations sont de recouvrer une histoire combative occultée, souvent méconnue. Et pour ceci, eh bien, nous opérons des lectures autour d'archives et de sources d'époque locales, régionales. Si tu souhaites rejoindre le groupe de lecteureuses et de lecteurs, eh bien, bienvenue, on en a bien besoin. Il y a un canal Telegram pour ce faire et le lien est dans la description. Alors, pour cette journée de clôture du procès, nous avons décidé de terminer sur la famille Schmidheny. Les frères Schmidheny, ces Suisses qui se croyaient tout permis. C'est un article paru dans le bulletin d'information de Kaova, numéro 28, Lausanne, en juillet 2018. Donc il est assez récent celui-là. Le Kaova est un acronyme qui désigne le comité d'aide et d'orientation des victimes de l'amiante. Comme on l'a vu jusqu'ici, Holcim est responsable de la mort de milliers de personnes, notamment via leur filiale Eternit, d'extraction et de production d'amiante. La Suisse opulente a toujours favorisé l'accaparement des richesses d'autrui grâce à ses résidents les plus cupides et dépravés dont elle a préféré passer sous silence leurs crimes et machinations. C'est là le secret de son attrait et de sa fortune. Mais la Suisse l'a aussi amassé au détriment de sa propre population et de nombreux immigrés qu'elle n'a cessé d'exploiter et d'appauvrir. Bien que se déclarant neutre, elle avait mis au service des monarchies européennes ses régiments contre-révolutionnaires. Ces Suisses, dont le quart sont protestants, s'approprièrent impunément tout ce qui pouvait leur rapporter gros, de l'or des nazis aux ressources naturelles les plus rentables, en profitant souvent de leur accointance avec les régimes dictatoriaux. Car, je cite, le protestantisme esclavagiste, capitaliste, commerçant et industriel était plus âpre encore et plus hypocrite que le catholicisme. Fin de citation. Elle est de Robert Escarpi, né en 1918, décédé en 2000, dans les lettres ouvertes à Dieu en 1966. Elle cautionna sans reconnaître ni déplorer la traite négrière et illégalement plus d'un millier d'esclaves chinois pour la construction du canal de Panama. Voici deux de ses protagonistes, Henri Étienne et Louis Dillens, dont nous tirons les témoignages. Lettre d'Étienne à ses parents en Suisse depuis Haïphong en 1887, citée par Pavillon. Je cite. Nous ne pouvons pas attendre avec un bateau qui nous coûte 3000 francs par jour, et j'ai fait débarquer les 1100 hommes que nous avions rassemblés. Nous sortons toutes ces tresses, cela signifie esclave, à la barbe du gouvernement anglais qui nous aurait traînés, incarcérés 2 ans s'il avait fallu lui demander sa permission. Mes Chinois sont arrivés en excellente santé. Fin de citation. Mais ils ne le resteront pas longtemps, décimés par le choléra, le paludisme ou la fièvre jaune et les conditions épouvantables qui leur seront imposées. Ce protestant neuchâtelois ne s'émeut pas de la perte de cette, citation, « marchandise ». Le chantier français du canal aurait fait 27 500 morts. Pas plus que Stéphane et ses centaines de milliers de morts de l'amiante ou de son frère Thomas, coupable de nombreux morts dans ses cimenteries en 2 ans. Au pavillon décrit le trafic d'un autre affairiste, le Lausannois Louis Dillens. Je cite, « Ces deux navires font escale au Cap. Au retour, le négrier, ville de Lausanne, y arrive le 28 novembre 1790 avec 550 noirs à son bord, achetés au Mozambique. Le pays de Vaud le suit le 5 décembre avec une cargaison de 425 esclaves. » Fin de citation. Il reviendra des Antilles, ses navires chargeant alors café, cacao, sucre pour son retour à Marseille. Une lettre du financier de cette traite, Jacques-Antoine Sellier, datée du 29 janvier 1791, démontre qu'il s'en frotte les mains. Je cite « Monsieur Dillens a reçu de fort bonnes nouvelles de ces deux négriers qu'il encourage d'expédier un troisième navire fin mars. » Fin de citation. On notera le entre guillemets, patriotisme de ces riches trafiquants qui baptisaient leur navire du nom de leur ville, canton, puis plus hardiment Helvétie. Ce bref rappel historique démontre que les monnaies des frères Schmidheiny, multimillionnaires et intouchables, ne sont que la continuation de l'impérialisme commercial par des moyens plus discrets, pour ne pas dire secrets. Car Stefan Schmidheiny ne se confie pas volontiers. Maria Roselli, auteur de « Amiante et éternite, fortunes et forfaitures », paru aux éditions d'Amba à Lausanne en 2008, avoue avoir eu du mal à cerner ce personnage. Je cite « Je tente de lui parler depuis 10 ans pour lui demander quelles sont ses intentions. Lors d'une conférence sur la philanthropie qu'il a tenue il y a 3 ans, il a rendu un vibrant hommage à la fragilité de la vie. En même temps, il n'a jamais eu le courage d'aller au procès de Turin, parler avec le juge ou rencontrer ses victimes. » Fin de citation. Un autre journaliste relève que, je cite, « Eternit, l'empire du ciment amiante, est sans doute l'une des multinationales familiales les plus secrètes de Suisse et du monde. Dirigée par la famille Schmidheiny, elle ne publie ni compte, ni rapport annuel, ni liste de filiales ou de participations. » Citation parue dans la Tribune le matin du 21 janvier 1983. SS se présente lui-même ainsi, je cite, « Je suis un pur produit de ma famille, né de la 4e génération d'un clan suisse-allemand qui a bien réussi dans les affaires et dont tous les membres ont cru à leur responsabilité envers la société. Ils croient que la société leur a donné des ressources et par conséquent qu'ils doivent les réinvestir dans la société qui leur a donné des rôles de dirigeants qu'ils doivent utiliser pour l'améliorer. C'était, il me semble, une sorte de noblesse oblige, mais je pense qu'il y avait plus de sentiments humains que cela. Je pars du principe que c'est dans une économie de marché libre que l'homme est le mieux à même de réaliser la qualité de vie à laquelle il aspire. » Démêlé de Thomas Schmidheiny. Si Stefan, on l'a vu, est accusé d'avoir provoqué une catastrophe mondiale avec l'amiante, son frère aîné, Thomas, pourrait l'être d'avoir bétonné la planète. Chaque tonne de ciment produit près d'une tonne de CO2, sans compter les émissions produites par la production d'acier d'armature, l'extraction de sables et graviers devenus rares et le coût écologique des transports de ces matériaux et du béton. Le béton, particulièrement cher, lourd et froid, qui n'est pas recyclable et gros consommateur d'énergie fossile, est de plus le pire des matériaux de construction dans les régions à risque sismique ou en guerre où Holcim n'a pourtant cessé de le commercialiser. Cette multinationale savait pourtant que ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, mais l'effondrement des immeubles en béton qu'ils occupent. Mais la responsabilité de Thomas Schmidheiny ne s'arrête pas là. Outre le délit d'initié du gérant de fortune d'Holcim qui lui aurait rapporté 2 millions de francs lors de la fusion des deux multinationales du ciment, Holcim et Lafarge, ont toujours cherché à implanter leur cimenterie dans les pays dévastés par les guerres ou les séismes en vue de leur reconstruction. C'est en Syrie que ce dernier scandale a éclaté. Pour sauver coûte que coûte leur cimenterie de Jalabiya en pleine guerre civile, prise d'assaut et occupée par Daesh, 7 cadres de Lafarge ont été mis en examen en France à la fin 2017 pour leur forfait commis entre 2011 et 2014, consistant à verser 13 millions d'euros à plusieurs groupes islamistes, soit pour franchir leur checkpoint, leur acheter du pétrole ou libérer des ouvriers kidnappés. Ceci est tiré du Monde du 1er décembre 2017 et du Parisien du 22 mai 2018. Ils sont accusés d'avoir payé des groupes armés pour continuer à faire tourner leur cimenterie malgré la guerre. Pour compléter le portrait de Thomas, nous avons traduit le récent article de Claudio Carrer, paru dans le journal syndical Area le 18 mars 2018, sous le titre « I brutti vizi dell'antro Schmidheiny », les sales vices de l'autre Schmidheiny. La fusion Holcim-Lafarge. Après avoir occupé des postes de direction pendant près d'un demi-siècle, Thomas Schmidheiny, âgé de 72 ans, a participé la dernière fois, le 8 mai dernier, à l'Assemblée Générale de Lafarge Holcim, le plus puissant groupe de ciment au monde. Entre parenthèses, 100 000 collaborateurs dans 90 pays, parenthèses fermées. Il en est résulté la fusion en 2005 du français Lafarge avec le suisse Holcim, hérité de son père Max au milieu des années 70. En dépit du fait qu'il demeure le plus gros actionnaire avec une participation de 11,4% malgré sa démission. L'ère de la dynastie Schmidheny, l'une des familles les plus influentes des industriels suisses du siècle dernier, prend fin. Une époque faite plus d'ombre que de lumière, marquée notamment suite aux dizaines de milliers de morts provoquées dans le monde entier par Eternit qu'a dirigé son frère Stefan, fils de l'empire familial géré par le plus célèbre des frères pendant des années. Il est toujours en procès pour meurtre devant 4 tribunaux de la République italienne suite aux milliers de victimes de l'amiante décédées sur leur milieu de vie et de travail de ces usines en Italie qu'il contrôlait depuis le milieu des années 70 jusqu'à leur fermeture sous prétexte de faillite en 1986. Un événement qui, à certains égards, a impliqué aussi Thomas, frère aîné de l'accusé, c'est le procès de Turin. Tout d'abord parce que lui aussi est concerné par l'enquête menée par le procureur de Turin dans le cadre du procès dit Eternit Terre, concernant environ 200 décès d'immigrés italiens ayant travaillé dans les usines Eternit suisses de Niederurnen à Glaris et de Payerne dans le canton de Vaud, ou qui vécurent dans leur voisinage immédiat ou sont tombés malades suite à leur exposition environnementale à l'amiante. Cela découle de la courte période qu'il a passée à la tête d'Eternit Suisse. Thomas Schmidheny étant à sa manière le protagoniste en Italie du premier grand procès de l'amiante ciment, a dû comparaître comme témoin pour avoir fait un don dit spontané de 3 millions d'euros à la ville de Casale Monferrato, ville piémontaise où l'usine Eternit, dirigée par son frère, a fait des milliers de victimes et continue de déplorer 50 décès par an. Ce sont là des détails méconnus en Suisse, mais extrêmement intéressants, car d'une certaine manière, ils font suspecter l'éloignement de son frère cadet, ou du moins une certaine indifférence quant à son sort au cours du procès. Le fait d'avoir accepté d'être interrogé par les magistrats de Turin pendant l'enquête et d'assister au procès comme témoin relève d'une approche différente de la justice italienne, car Stefan a toujours refusé de se présenter devant la cour. Ce fut par une matinée chaude de juillet 2010 que Thomas Schmidheny, l'air sombre et visiblement tendu, se présenta devant les juges dans la salle d'audience du palais de justice de Turin. Au cours de ses réponses, il a prononcé de nombreux, je cite, « je ne sais pas » et « je ne peux pas répondre », fin de citation, mais il a confirmé qu'il tirait les ficelles de la multinationale depuis le milieu des années 70 et avait Eternit Italie sous son contrôle, ce que la défense cherchait à nier. D'après Thomas, c'était son frère Stefan qui était l'objet de discussions en famille à propos de la nocivité de l'amiante. Il déclara qu'au milieu des années 70, il, je cite, « essayait de convaincre son père que l'amiante étant cancérigène, il ne devait plus être utilisé. » Sur les raisons qui ont amené le père Max à partager l'entreprise familiale en deux et à confier les branches du ciment et de l'amiante à un enfant plutôt qu'à un autre, Thomas a répondu, je cite, « Mon frère et moi avions deux visions différentes de la culture d'entreprise et du management. » Dans ses relations avec les victimes, Thomas Schmidheny, bien qu'en n'ayant pas d'intérêt personnel direct, a eu l'occasion de montrer une autre sensibilité. Il ne serait pas possible autrement d'expliquer cette offre de 3 millions d'euros faite à la municipalité de Casale Monferrato immédiatement après avoir été retiré de la première enquête, puisqu'il n'occupait pas de poste de responsabilité en Italie. Il l'a défini comme, je cite, « un acte de réconciliation avec la ville », fin de citation. Ces fonds seraient utilisés pour l'achat de matériel de diagnostic pour l'hôpital de Casale, pour financer les services d'assistance aux malades en phase terminale et en partie, environ 200 000 euros, en faveur de l'association des victimes et des syndicats. Et le fait que ces bénéficiaires auraient pu utiliser ce don pour relancer la guerre judiciaire contre son frère Stefan ne l'a pas trop dérangé. Je cite « cela ne m'intéresse pas », fin de citation, a-t-il répondu en substance à un journaliste qui l'accablait. Selon nos informations, Thomas Schmidheny avait auparavant incité Stefan à octroyer une compensation décente à toutes les victimes, mais celui-ci, n'ayant pas voulu entrer dans ce jeu, tout s'est effondré. À tel point que Stéphane s'est limité à formuler une proposition de transaction tout simplement inadmissible, 75 millions d'euros en échange de la renonciation à toute initiative judiciaire à son encontre. Tout cela doit être su pour établir la vérité des faits, ce qui en Suisse, berceau de l'amiante ciment, est sacrément difficile à accepter. Et certainement pas que Thomas aurait été le bon frère. De plus, lui aussi, dans le cadre de son activité principale chez Holcim, qui a conduit en 2015 à la fusion avec Lafarge, n'a pas été épargné par les scandales. Par exemple, il a été pris pour cible par l'autorité espagnole de lutte contre la corruption, qui lui a infligé une amende de 1,5 million d'euros et a été, à plusieurs reprises, la cible de critiques pour la politique salariale du groupe en Afrique du Sud. Et finalement, ironiquement, il met fin à son mandat au conseil d'administration, laissant une entreprise dans la tempête suite au manque d'attention portée à la sécurité au travail, puisque 150 travailleurs des cimenteries sont morts ces deux dernières années. Je cite, « Une amélioration significative de la sécurité au travail et de la protection de la santé de l'ensemble du personnel sur tous les sites de production dans le monde. » Fin de citation. Cette déclaration émane du rassemblement de protestation organisé à la dernière assemblée générale de Lafarge-Holcim à Dubendorf le 8 mai dernier. Sous les auspices de l'Union des fédérations syndicales internationales du bâtiment et du bois, suite aux nombreuses tragédies au travail dans leur multinationale, plus de 150 morts et des milliers de blessures professionnelles graves au cours des deux dernières années, en particulier dans les entreprises des pays du Sud, comme l'Inde et l'Indonésie, mais aussi en Europe et en Belgique. Une situation qui, en 2017, avait obligé l'Assemblée Générale de l'Holcim de promettre la signature d'un accord cadre avec les syndicats sur la sécurité dans le monde. Cependant, le nouveau PDG du groupe, Jan Jenisch, connu pour ses penchants fortement anti-syndicaux, a refusé de le ratifier. La raison ? Eh bien, des accords de ce type doivent être signés au niveau local, bien que cette multinationale les coordonne plutôt au niveau mondial. L'une des pages les plus sombres et moins étudiées de l'histoire de l'amiante, la famille Schmidheiny l'a écrite pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie, en particulier en tant que copropriétaire et gestionnaire de la DASAG, basée à Berlin, sorte de grand Eternit fondé en 1929 avec les barons de l'amiante belge, français, anglais et allemand. Une compagnie de la honte qui a employé des travailleurs forcés et des prisonniers de guerre. Ces faits, que les Schmidheiny ont toujours essayé de cacher, ont été révélés en 2008 grâce au travail d'investigation de la journaliste Maria Roselli, auteur du livre dit Asbestlüge, traduit en français « Amiante et éternite, fortunes et forfaitures », un document précieux et unique qui raconte l'histoire de l'implantation industrielle d'éternite en Europe et démontre le rôle central joué par les Schmidheiny. Citation, « C'est le fruit, écrit Maria Rosselli, de 10 années de recherche, 10 années très difficiles. » Fin de citation. L'auteur est en effet entré en collision avec une réalité faite de silence avec une entreprise qui avait mal orienté sa politique et qui n'a admis les faits seulement après qu'ils aient été prouvés. Je me suis aussi tourné vers les tribunaux pour dénoncer les comportements potentiellement punissables pris de toute éternité en Suisse, dont je suis au courant. J'ai aussi rencontré une forte résistance ici. On m'a dit qu'il ne serait pas logique d'ouvrir des enquêtes parce que dans tous les cas, les crimes ont été prescrits. D'autre part, il m'était extrêmement difficile d'entrer en contact avec les travailleurs parmi lesquels la peur prévalait. Et chaque article que je publiais a été systématiquement contesté sur le plan juridique par les avocats de l'entreprise. En d'autres termes, il n'était pas nécessaire de parler d'éternite et d'amiante en Suisse, et la triste réalité devait être aussi cachée que possible. Fin de citation. Tel est le cas des accointances entre éternite et le régime nazi. L'histoire des travailleurs forcés d'éternite en Allemagne est sans conteste l'un des aspects les plus sombres. La journaliste Maria Rosselli l'a révélé dans son livre « Amiante et éternite, fortunes et forfaitures » où on lit l'interview émouvante de Nadia Ofianikova, une femme de 85 ans, décédée depuis, originaire du Bélarus. Il est inadmissible d'apprendre qu'il y a eu des déportés dans une usine appartement à des non-allemands, mais à des Européens et des Suisses. Nadia se souvient que pendant la guerre, âgée à peine de 19 ans, elle avait été contrainte aux travaux forcés dans cette usine éternite de Berlin. Ensemble, Maria et elle sont retournées sur les lieux où elle avait été exploitée, affamée et humiliée. « Je me souviens, dit Maria, qu'elle était tellement ébranlée qu'elle ne pouvait plus parler. Mais, je cite, ses souvenirs étaient intacts, comme si tout s'était passé la veille, fin de citation, disait-elle lors de l'interview. Elle se demandait comment elle avait pu subir, même malade, des rythmes de 12 heures de travail par jour, sous la surveillance constante, pratiquement sans manger et toujours dans la peur. » L'interview complète ainsi que le numéro de cet exemplaire sont intégralement à disposition à la lecture et au téléchargement dans les sources du CLS ci-dessous.